بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين وبعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب زدنا علما يا كريم رب زدنا علما يا كريم رب زدنا علما يا كريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي شفاغي سوى توت اللوانج ريفيان الله عز وجل كي مدون لا بوسيبيليتي دو نو ريونير بوندون 15 20 مينوت بور اسيي دابراند ان بو بلوس سو لو تفسير دو آية الكرسي اون افي كومونسي ا parler des vertus de Ayatul Kursi vendredi, et on avait rappelé que c'était un des plus grands versets, si ce n'est le verset le plus important du Coran. On avait rappelé également que dans le contexte dans lequel nous vivons, avec autant de, on va dire, de personnes parfois mal intentionnées, sans pour autant devenir parano, hein, mais il est essentiel que le croyant se protège, il est essentiel que le croyant prenne ses précautions, et la lecture d'Ayatul Kursi le soir avant de dormir, c'est impératif, tout comme nous devons de le lire après chaque salat maktoub, 5 fois par jour au moins, et l'enseigner à nos enfants et faire en sorte que ça fait partie des versets que nous lisons au quotidien. Maintenant, il y a le fait de le lire avec cette conviction que c'est ce couplet de versets bi-idhnillah, bi-fadlillahi ta'ala wa karami wa wa'idi, ça nous protège contre tout ce qui est mauvais. Mais maintenant, si on creuse, on va un peu plus loin et on creuse le sens des versets et on se rend compte de la puissance de chaque verset, je vous assure que lorsque nous allons le lire pour trouver protection contre quelque chose de néfaste, assurément nous allons le lire avec un peu plus de conviction. C'est pour ça que nous allons prendre un peu plus de temps, on a du temps, alhamdulillah, tant que l'ange de la mort ne vient pas, on a le temps, bi-idhnillah. On a le temps, même si on ne complète pas tous les juz, et on ne fait pas un tafsir de chaque juz, mais autant faire les choses correctement, posément, et on apprend, ou peut-être pour la première fois, ou alors ça vous fera des révisions, le tafsir de Ayatul Kursi. Et je vous assure que moi-même, en relisant As-Sa'di, en relisant Ibn Kathir, et j'étais avec Al-Qurtubi, un jour on sera avec lui, Inch'Allah, je lisais également quelques passages de Al-Qurtubi, rahimahullah, également sur Ayatul Kursi, on en apprend, subhanallah, encore plus. Et le but, ce n'est pas uniquement d'avoir beaucoup de connaissances et de savoir qu'est-ce que tel Mufassir a dit, qu'est-ce qu'un tel a dit, et ainsi de suite, parce que leur avis, ils vont tous dans le même sens. Il n'y a pas de divergence dans les versets, mais certains ulama, certains Mufassir avaient beaucoup plus de compréhension. Ce qui nous importe, c'est que nous arrivions à nous enrichir spirituellement de ces paroles, et lorsque je lis ces versets, j'arrive à retenir, à me rappeler de ce qui a été dit, et du coup, lorsque je le lis dans la salat, ou alors lorsqu'il s'agit de versets de protection comme c'est Ayatul Kursi, lorsque je les lis pour me protéger, mais subhanallah, j'ai cette niaque spirituelle, cette conviction, ce yakin qui fait que je suis persuadé que rien ne peut m'atteindre, ne peut me toucher si j'ai la lecture de ce verset qui est sublime et qui est magnifique. Allahu la ilaha illahu, on avait rappelé, mais c'était sur la fin du programme, donc on avait déjà pris beaucoup de temps dans les vertus, donc je n'ai pas trop développé. C'est le principe même du tawhid, la traduction Allah, point de divinité à part lui, c'est bien sûr l'équivalent qu'on dit de la ilaha illallah. Et développer Allahu la ilaha illahu, ça ramènerait à développer les bases même des aqidas, ce qui serait très long, serait tout un programme. Les savants disent, je vais dire juste une parole pour résumer, la ilaha, ça s'appelle an-nafi, et illallah, ça s'appelle al-ithbat. Et en aqida, on appelle ça la négation et l'attestation. Donc la ilaha, il n'y a pas d'autre dieu, personne ne mérite d'être adoré, c'est le fait de refuser et de réfuter tout ce qui peut être pris comme divinité en dehors d'Allah. Ce qui veut dire également, pas uniquement se prosterner devant eux ou les adorer, mais tout ce qui s'appelle ibada, avoir confiance, avoir espoir, les aimer et même avoir peur, tout ça ce sont des actes que nous gardons, des réactions du cœur qui sont réservées à Allah Azza wa Jal. Donc la ilaha, c'est la négation totale de tout ce qui est pris comme divinité en dehors d'Allah, et c'est en aqidah, les savants disent que c'est l'équivalent du verset « Qul ya ayyuhal kafirun, la a'budu ma ta'budun ila akhiril aya ». si on veut comprendre le sens de la ilaha illallah, on doit lire le tafsir de Qul ya ayyuhal kafirun. Et illallah, en aqidah, il parle de al-ithbat, c'est l'attestation, que le seul qui mérite d'être adoré, c'est Allah. Et le illa, c'est pas vraiment al-istithna, si ce n'est que, à part Allah. Et le sens de illallah, les ulama aqidah disent, il suffit de lire le tafsir de Qul huwallahu ahad, Allahu samad, ila akhir al-surah, c'est le sens profond de illallah, et là de ce verset Allahu la ilaha illahu. Et ça, c'est ce qu'on avait un peu expliqué la dernière fois. Al-Hayyul Qayyum, celui qui subsiste par lui-même, Al-Qayyum. Al-Hayyul Qayyum, on sait que le mot Hayat, c'est la vie. Al-Hayy, c'est celui qui est vivant, mais bien sûr, là où c'est un peu complexe d'expliquer les noms et les attributs d'Allah, c'est que on peut penser, si on n'est pas initié, on peut se dire, mais comment est-ce possible qu'on attribue à Allah des mots et des termes qui sont propres aux humains? Aucunement. Si Allah s'est qualifié lui-même de Al-Hayy, et Al-Hayy, celui qui subsiste par lui-même, non, le vivant, pardon, Al-Hayy, c'est le vivant, et quand on dit le vivant, on dit que nous sommes des êtres vivants, mais est-ce qu'on peut se comparer avec Dieu? Aucunement. Laysa kamithlihi shay, rien n'est semblable à Allah Azza wa Jal. Et c'est la règle qu'on rappelle dans les programmes depuis plusieurs années, bi'idhnillah, sur l'étude des noms et des attributs d'Allah. Le fait qu'Allah Rabbul Izzah s'est qualifié, il s'est attribué le terme que Al-Hayy, le vivant, c'est ce qu'on appelle en aqidah, mais là on pousse un peu loin, c'est très technique, on appelle ça l'afd mushtarak, le terme commun. Le terme par lequel l'être humain va comprendre le message d'Allah. Ce qui lui permet de se projeter vers une définition qui lui est connue, qui est commun à l'ensemble des êtres humains. Mais bien sûr, quand on comprend de quoi il s'agit. Vivant, je sais qu'est-ce que ça veut dire. Celui qui entend, celui qui voit, celui qui sait, ce sont des choses que j'arrive à comprendre parce que les êtres humains, les êtres vivants, voient, entendent et savent et ressentent, aiment et détestent et ainsi de suite. Mais lorsque ces noms et ces sifat, maintenant, cela concerne notre Seigneur, c'est là que je connais les limites du terme. Le terme était un terme humain, mais sa portée lorsqu'on parle du divin, c'est il y a une portée divine qui ne nous est pas accessible, d'où le verset de base, laysa kamithlihi shay, rien ne lui est semblable, rien ne ressemble à Allah Azza wa Jal. Ainsi donc, quand on dit qu'Allah est le vivant, bien sûr, la vie d'Allah, ce n'est même pas nécessaire d'essayer de comprendre si on peut comparer avec la vie d'un être humain. Ce qui caractérise la vie des makhlouqats, c'est kullu nafsin dha'iqatul maut. Chaque âme goûtera à la mort. Et même les malaïka, même les anges, les archanges, lorsque il y aura le souffle dans le sourd, l'ensemble de la création sera anéanti. Il ne restera que Allah Azza wa Jal. Et Allah Azza wa Jal, c'est Alhamdulillahi Rabbil Alameen. C'est toute l'ange revient à Allah, le Seigneur des mondes. Et en commentaire, les Mufassirins disent, les mondes, c'est Ay kullu ma siwa Allah. Les mondes, c'est tout ce qui existe en dehors d'Allah. Et le jour de Qiyama, l'iman il mulku liyom, à qui appartient la royauté en ce jour, lillah il wahid il qahar, uniquement à Allah Azza wa Jal. Toute cette explication, c'est pour écarter une quelconque ambiguïté sur le fait d'entendre le mot vivant, le fait qu'Allah est vivant, la vie d'Allah est incomparable, Allah c'est celui qui a toujours existé, qui existe et qui existera toujours, la vie d'Allah c'est un terme humain, vie c'est incomparable avec tout ce que nous pouvons comprendre. Al-Hayyul Qayyum, Al-Hayyu fi nafsihi, Alladhi la yamutu abada. Ibn Kathir dit, celui qui est vivant par lui-même, sans qu'il n'ait besoin, subhanallah wa na'ud billah, de quiconque ou de na'ud billah, de personne d'autre, la yamutu abada, et cette vie, c'est une vie qui ne se termine jamais, alors que la vie de toute créature a une fin, et puis recommence avec un nafrofessur, lorsque l'ange souffle une seconde fois dans la trompe pour faire revivre les êtres vivants, et puis il y a une vie éternelle, fil janna ou fil nar, nasallal afiya, allahumma janna minan nar, wa allahumma arzuqna al jannata bighayri hisabin wa ala adhabin wa la iqab. Donc la vie d'Allah, elle n'a aucune interruption, c'est al-hayy, c'est celui qui est vivant et qui est éternel. Al-Qayyum qui a été traduit par celui qui subsiste par lui-même. As-Sa'di rahimahullah dans le tafsir de Al-Qayyum, il dit que le subsistant par lui-même, celui qui n'a besoin de personne, mais toutes les créatures ont besoin de lui. Al-Hayy, celui qui vit, qui est autonome, qui a toujours existé, qui existera toujours. Et Al-Qayyum, celui qui permet à sa création d'exister, de vivre, d'avancer, de profiter, d'avoir ce qu'il leur faut pour pouvoir vivre correctement. Al-Qayyum, celui qui subvient, on va dire, aux besoins de ses créatures, celui qui n'a besoin de personne, mais toutes les créatures ont besoin de lui. As-Sa'di rahimahullah, là on était de la tafsir d'Ibn Kathir, As-Sa'di rahimahullah, ce qu'il rajoute, c'est que avec le nom d'Allah Al-Hayy, le vivant, on a tout ce qu'on appelle les sifat dhat, les attributs qui sont propres à Allah, comme As-Sami', Al-Basir, Al-Alim, Al-Qadir, celui qui entend tout, celui qui voit tout, celui qui a la connaissance totale de tout ce qui existe, et celui qui a le pouvoir sur toute chose. Et il dit que Al-Qayyum, à travers ce mot, à travers ce nom d'Allah, celui qui donc subvient aux besoins de ses créatures, on a tous les noms et les qualités d'Allah qui sont en interaction avec la création, c'est-à-dire Al-Khalq, le fait qu'Allah les ait créés, le fait qu'Allah s'est adressé, Al-Kalam, à Moussa alayhi salam, Al-Ihya, celui qui donne la vie, Al-Imata, celui qui donne la mort, Al-Rizq, et donc Al-Razzaq, celui qui donne la subsistance, et ainsi de suite. C'est pour ça que, sans faire trop long, Al-Sa'di dit que dans Al-Hayyul Qayyum, on a d'une certaine façon le condensé des 99 noms d'Allah. Entre Al-Hayy, on a, on va dire, les noms d'Allah qui lui sont propres concernant sa personne, et là aussi le mot personne, c'est un terme humain, et cela, comme cela appartient à Allah, et Al-Qayyum, c'est les noms d'Allah en rapport avec ce qu'il donne et ce qu'il accorde à ses créatures, la façon qu'il agit avec ses créatures et qui permet à ses créatures d'exister et d'avoir un sens dans leur vie. Et As-Sa'di rahimahullah, il rappelle également que certainement le Ismul A'zam, le nom suprême d'Allah Azza wa Jal, se trouve dans ce verset Al-Hayyul Qayyum. C'est un avis, c'est une approche, et d'autres savants sont d'avis que le nom majestueux d'Allah Azza wa Jal, celui par lequel quand on l'invoque il accepte, serait dans d'autres versets, entre autres وَإِلَهُكُمْ إِلَهُمْ وَاحِدْ لَا إِلَهِ إِلَّهُ وَالرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ. Donc, de toute façon, quand on fait dua, on invoque Allah par le maximum de noms que nous connaissons, entre autres, Ya Hayyu, Ya Qayyum, Ya Rahman, Ya Rahim, et nous mettons toutes les chances, en guillemets, de notre côté, pour avoir nos invocations acceptées. Hada. Ibn Kathir continue avec le sifa de Al-Qayyum. Jami'u al-makhlouqat wal-mawjoudat muftaqiratun ilayhi. Chaque créature a besoin d'Allah, wa huwa ghaniyun anha, alors que lui n'a besoin de personne, d'aucune créature. La yahtaju ila ahad wa la yahtaju bal la yahtaju ila ibadatina. Il n'a besoin de personne, et au-delà de ça, Allah n'a nullement besoin de nos ibada, de nos actes d'adoration. Allah n'a pas besoin de nos prosternations, de nos prières, de notre jeûne. Allah n'a besoin de personne ni de l'adoration de quiconque. Encore moins les adorations des êtres humains, parce qu'Allah a auprès de lui des anges qui font son adoration. La ya'sun Allah ma amarahum wa yafa'alun ma yu'marun, qui ont été créés pour l'adoration d'Allah. Et même de ces malaïkas, Allah n'a nullement besoin. Je ne veux pas trop m'étendre, mais si on parle de ces noms d'Allah, dans le tafsir de le 29e juz, c'est des versets qu'on n'a pas encore commentés, mais qu'on, inshallah, on y arrivera, en parlant du trône d'Allah, وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٍ. Ça fait partie des versets qu'on hésite un petit peu à expliquer, on va dire, de façon non péjorative, hein, au grand public, mais on va dire à ceux qui ne sont pas initiés, parce que des fois, on va dire, trop d'explications peuvent être un peu complexes pour celui qui ne creuse pas suffisamment dans la connaissance religieuse. Ce verset parle de 8 malaïka qui supportent le trône d'Allah. Mais en commentaire, les Mufassirin disent Allah n'a nullement besoin de ces malaïka. Allah n'a nullement besoin de ces malaïka. C'est juste ce qu'Allah nous informe. C'est-à-dire qu'Allah n'a besoin ni des anges, ni de leur présence, ni de leur adoration. Hada. Wala qiwa malaha biduni amri. Et aucune créature ne peut vivre ou avancer ni subsister sans l'ordre, l'autorisation et le soutien d'Allah qui est Al-Qayyum, celui par lequel toute chose prend existence et avance dans la vie depuis qu'Allah les a créés jusqu'à leur mort. On avait d'autres explications, mais on va se limiter à ça. Allahu la ilaha illahu al-hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm, ça a été traduit par ni somnolence, ni sommeil ne le saisisse. Alors là aussi, le terme sommeil ou somnolence, ça peut paraître étrange. Comment est-ce que... En fait, Ibn Kathir, rahimahullah, explique, et c'est l'avis de l'ensemble des Mufassirin, c'est très beau ce qu'ils disent, hein, que rien, la naqsun wa la ghaflatun wa la dhuhulun an khalqi. Le sens de ce verset, c'est que à aucun moment notre Seigneur ne dort, ni ne somnole, dans le sens où on voit clairement la différence entre Al-Khaliq et Al-Makhlouq. Chaque Makhlouq a besoin d'un temps de sommeil et de repos. Ou même si on est éveillé, il y a des fois où nous baissons d'attention. Et des fois où vous êtes attentif. Là, par exemple, quand certains écoutent l'intervention, je suis sûr qu'à un moment donné, certains somnolent. Il est tout à fait normal. Ce qui fait de nous des êtres humains, c'est les coups de fatigue, des moments où on est déconcentré, des moments où on pense à autre chose. Wallah, musta'an, nous-mêmes, quand nous prions, nous n'arrivons pas à garder un niveau de concentration, on va dire, optimal. Des fois, on est concentré, des fois, on pense à autre chose. Des fois, on somnole. Wallah, musta'an. Et le verset veut dire que Allah Azza wa Jal est au-dessus de ses créatures. Il est différent, est différent, subhanallah. Allah est au-dessus de toutes ses créatures et l'attention de notre Seigneur concernant ses créatures, et c'est le terme Al-Qayyum, celui qui gère la création, cette attention avec laquelle Allah gère la création ne nécessite bien sûr aucun effort ni rien de la part d'Allah, mais c'est quelque chose qui est permanent. Et jamais ton Seigneur dort, jamais ton Seigneur somnole, jamais ton Seigneur ignore ce qui se passe. Il est toujours attentif et depuis la création, depuis qu'il a créé Adam alayhi salam, depuis qu'il a créé, on va dire même au-delà de ça, les premières des créations, depuis le Arsh, depuis Al-Qalam et ainsi de suite, jusqu'au Qiyama, Allah contrôle tout. Allah gère toute sa création et jamais Allah Rabbul Izza ne baisse de vigilance ou ne se détourne de sa création. Et c'est là qu'on voit que c'est... Là, on voit un peu plus la puissance al-azim, la puissance de notre Seigneur, parce que au niveau créature, aucune créature ne peut être déjà éternelle, aucune créature ne peut avoir un degré d'attention, de concentration et d'implication permanente. Allahu la ilaha illahu al-hayyul qayyum. Donc la ta'khuduhu sinatun wa la nawm, Ibn Kathir commente encore, il dit shahidun ala kulli shay, la yaghibu anhu shay wa la yakhfa alayhi khafiya. Rien n'est caché, rien ne se passe sans l'ordre et la vigilance et l'autorisation de notre Seigneur. Shahidun ala kulli shay, il est témoin de chaque chose et rien ne lui échappe. Voilà, c'est ce qu'on voulait dire, rien n'échappe à Allah Azza wa Jal. Alors en termes de conviction, en termes de yaqin, qu'est-ce que cela doit provoquer en moi? Le fait de dire que la ta'khudhu sinatun wa la nawm, c'est que je réalise que quelle que soit la situation que je vis, Allah Azza wa Jal le sait. Allah est au courant et rien ne lui échappe. Si quelqu'un a essayé de te faire du mal dans l'obscurité de la nuit, d'accord, en quelle que soit la façon, même de façon concrète, réelle, ou alors par des moyens qui nous échappent, ne crains rien. Et ne pense pas une seconde que le mal ou les mauvaises intentions, ou même le mauvais œil, c'est quelque chose qui échappe à Allah. Allah, Rabbul Izzah, supervise chaque chose. La yaribu anhu shay. De cette façon, tu es rassuré que rien ne se produit sans qu'Allah Azza wa Jal ne le sache, sans qu'il n'en soit totalement conscient. Et au-delà même du fait qu'Allah il sait ce qui se passe, c'est lui qui prédestine. C'est lui qui décide que telle chose se passe. Alors, on ne peut pas ouvrir trop de cette porte de commentaires par rapport à ce qui se passe et ce qui nous arrive, mais le fait que je l'ai dit, il faut quand même compléter. Il faut savoir que si quelqu'un te fait du mal ou s'il t'arrive un quelconque malheur ou ainsi de suite, si une personne t'attend, allez, on va dire là d'un cas concret, le matin tu sors et une personne essaie de t'agresser ou te faire du tort, ainsi de suite, et tu te dis que oui, mais Allah Azza wa Jalla le savait. Allah savait que cette personne me voulait du mal. Rien ne se passe, ne se produit sans qu'Allah Azza wa Jalla ne les prédestine. Alors donc, je reste ce que je disais, si quelqu'un m'a fait du mal, est-ce qu'il y a quelque chose d'incohérent entre le fait qu'Allah le savait et le fait que la personne ait pu me faire le mal? Si Allah a permis à une de ses créatures de t'atteindre, quelle que soit la façon, c'est que c'est le taqdir, c'est ce qu'Allah Azza wa Jal a prédestiné. Et quand Allah prédestine quelque chose qui nous est douloureux, quelque chose que nous n'aimons pas, c'est une épreuve. Et Allah Azza wa Jal, c'est lui qui avait prédestiné, par exemple, que cette femme apporte un morceau de viande cuit pour le prophète alayhi salat wa salam, et elle avait mis du poison. Et que le prophète alayhi salat wa salam avait mis un peu de cette nourriture dans sa bouche bénie, et qu'un peu de l'effet du poison ait touché son cœur. Et que le sahaba qui était à côté de lui, il avait déjà commencé à manger et il en est mort. C'est Allah qui a prédestiné que l'abid avait pris des cheveux du peigne du prophète alayhi salat wa salam et l'avait ensorcelé. Tout ça, c'est ce qu'Allah a prédestiné. Et quand Allah te prédestine quelque chose qui est difficile, c'est une épreuve, et Allah t'éprouve par sagesse, par sa hikmah, et Allah attend de toi une réaction. Allah te donnera des choses en échange de ta patience, et ainsi de suite. Et c'est là qu'on ouvrait toute la porte du sens des épreuves, ce qui n'est pas le but de cet tafsir, mais le fait qu'on ait expliquer que le cœur du croyant doit être apaisé, en sachant que rien ne se produit sans l'autorisation d'Allah. On doit quand même expliquer que s'il nous arrive quelque chose de mal et que on a fait doua et malgré ça cette chose nous arrive, c'est pas que na'oud billah cela a échappé à notre Seigneur, la wallah, c'est pas qu'Allah a voulu nous protéger mais que ça nous est arrivé quand même, non, c'est que c'est Allah Rabbul Izzah qui l'a prédestiné, et nous acceptons les épreuves tout comme nous acceptons les bienfaits. Et le prophète alayhi salat wa salam a dit à propos du croyant que la situation du croyant est exceptionnelle. Lorsqu'Allah l'éprouve, il fait preuve de patience et il y a un grand bien pour lui. Il est rétribué par sa patience. Et lorsqu'Allah lui accorde un bienfait, il remercie son Seigneur et il y a un bien pour lui. Allah le rétribue pour sa reconnaissance par rapport au ni'mah. Dans toutes les situations de ma vie, situations de bonheur comme de malheur, situations d'ouverture, situations de détresse, situations de bienfait comme situation d'épreuve, le cœur du croyant est toujours dans l'acceptation. Al-istislamu li qada'illahi ta'ala wa qadri. Accepter ce qu'Allah a prédestiné, se soumettre au décret divin et adopter la bonne réaction de reconnaissance quand c'est un bienfait, ou alors de patience, de persévérance, d'espoir, de rétribution et de fait de s'en remettre à Allah, de lui demander son aide lorsqu'il s'agit d'une situation d'épreuve. Hada. On va encore 5 minutes, Inch'Allah. « La ta'khuduhu sinatun wa la nawm » Dans notre hadith, le prophète alayhi salat wa salam nous explique « Inna Allah la yanamu wa la yanbaghi lahu an yanam » Ces hadiths vont dans le même sens qu'Allah Rabbul Izzah est vigilant et ne dort pas, il sait tout ce qui se passe. Ah, là il y a un complément de hadith. C'est le même hadith de Bukhari, hadith de Abu Moussa. Et quand on dit Abu Moussa, il s'agit de qui? Abu Musa, bien sûr, al-Ash'ari. Il dit que le prophète alayhi salatu wassalam s'est présenté à nous, qama fina rasulullah sallallahu alayhi wa sallam bi arba' kalimat. Et il nous a dit quatre paroles. Inna Allah la yanam wa la yanbaghi lahu an yanam. Allah ne dort pas et il n'appartient pas, il est inconcevable que notre Seigneur dort ou somnole. Yurfa'u ilayhi amalun nahari qabla amalil layl wa amalul layli qabla amalin nahar. Sachez, ô croyants, que les actions du matin lui sont présentées avant même les actions du soir et vice-versa, les actions du soir avant les actions du matin. C'est-à-dire que lorsque le croyant a passé sa journée, avant que la nuit commence, toutes ses actions du... Aujourd'hui, on est quoi ? On est mardi ? On est lundi. Toutes les actions du lundi matin, là, à cet instant, sont déjà présentées à Allah Azza wa Jal avant le maghrib. Et le lendemain, lorsqu'on se réveille le mardi, le lendemain matin, les actions du lundi soir auront déjà été présentées à Allah Azza wa Jal. Auront déjà été présentées à Allah Azza wa Jal. J'ai dit lundi matin, lundi soir, après bien sûr de le calendrier islamique, le jour suivant commence au Maghrib, mais on s'est compris, ça veut dire que tout ce que nous accomplissons en matinée est présenté à Allah Azza wa Jal avant que la soirée ne commence et ainsi de suite pour les actions du soir. Donc ça c'est, on va dire, en complément de ce qu'Ibn Kathir rahimahullah à porter comme explication à la ta'khuduhu sunnatun. C'est extraordinaire parce que juste pour un verset, et puis ça on finit par s'habituer à ce que les savants apportent comme connaissance pour expliquer un verset, mais tout ça sans rapport avec le fait qu'Allah ne dort pas ni ne somnole, et Allah est omniscient, Allah est omnipotent, et Allah Rabbul Izza est au courant de tout ce qui se passe, et nos actions lui sont présentées, et Allah examine nos actions et les actions de qui ? De l'ensemble de la création. Si à l'instant T, il y a, je ne sais pas, 8 milliards ou 8 milliards et demi de personnes sur Terre, leurs actions sont présentées auprès d'Allah Azza wa Jal. Qu'est-ce que cela évoque en nous ? Ce sont des hadiths qu'on a déjà entendus. Maintenant, on doit aller au-delà. Au-delà du simple fait d'écouter le hadith et de dire que oui, c'est vrai, je connais ce hadith, je l'ai déjà entendu, et on passe à autre chose. Jusqu'à ce qu'on puisse capter du cheikh ou du alim ou du fundi quelque chose que je ne connaissais pas. C'est pas ça la bonne approche. Le but de la connaissance, c'est pas juste de cumuler et de voir qu'est-ce que ce cheikh ou qu'est-ce que ce alim va m'apporter de nouveau. Une chose que je n'avais jamais entendue. C'est pas ça le but. Le but, c'est de revoir mes bases, tout ce que je connais, mais comment est-ce que cela va travailler mon cœur, va augmenter ma foi, mon iman, pour me permettre d'être un meilleur croyant. Et justement, à travers ce hadith, le fait que les actions lui sont présentées, ça doit provoquer quoi en moi ? Ça doit augmenter cette action intérieure qui est le muraqabatullah, la pensée permanente d'Allah. Réaliser que la moindre bonne action que j'accomplis, fais-le correctement, parce qu'elle sera présentée à ton Seigneur. D'accord ? Lorsque, après Fajr, mashallah, tu as lu ton Qur'an, tu as fait le dhikrullah, et mashallah, tu as fait 2 raka'at, ou 4, de shuruq, qu'on appelle le shuruq, qu'on appelle l'ishraq, peu importe. D'accord ? Il y a des fois, on se dit que bon, j'ai passé assez de temps à la mosquée, peut-être qu'il faut rentrer, il est tard, ou autre chose, et tu dis, non, je fais 2 raka'at, il y a des récompenses. Ne les fais pas rapidement, juste pour dire que j'ai fait et j'obtiens les vertus, les récompenses, sachant les récompenses qu'il y a pour cette salat. Fais-le avec ce qu'on appelle tahsin al-amal. L'accomplir correctement, parce que tu te dis que cette action-là, avant le maghrib, elle sera présentée et exposée à Allah Azza wa Jal. Et Allah va voir, et Allah sait déjà. Bien sûr, Allah n'a pas besoin d'attendre, na'oudhu billah, Allah n'a besoin de rien. Allah n'a pas besoin d'attendre que les anges amènent l'action. Au moment où on l'accomplit, Allah en est pleinement conscient. Et Allah est conscient de la qualité de ma salat et ce que j'étais en train de penser pendant ma salat. Mais Allah a créé ses anges, et ça rejoint le hadith, qu'il y a un groupe d'anges qui se relaient matin et soir et qui rapportent à Allah les actions du matin, et l'autre groupe d'anges qui rapportent à Allah Azza wa Jal les actions du soir. Et les savants, les muhadithins, disent qu'Allah n'a nullement besoin de ces anges qui lui apportent les actions, car Allah le savait déjà. Mais c'est la sunnatullah, c'est de cette façon qu'Allah a organisé les choses. Et Allah nous les présente afin que nous arrivions à comprendre qu'il y a un système, qu'il y a une création qui est au service d'Allah. Ce sont ces anges qui apportent à Allah nos a'mal pour que nous en prenions conscience. Car l'être humain a besoin de comprendre parfois comment les choses se produisent. Ainsi donc, quand je fais mon ishraq, je le fais correctement parce que je prends conscience qu'Allah le verra. Qu'Allah le verra. Et ça, ça me permet d'atteindre le plus haut degré de foi qui est Al-Ihsan. An ta'budallaha ka'annaka tara. Que tu arrives à un niveau où tu adores Allah exactement comme si tu le vois. Et si tu ne le vois pas, فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكُ. Sache qu'Allah, lui, te voit. Et en commentaire, les savants disent que c'est ce croyant qui, lorsqu'il accomplit une bonne action, il le fait avec cœur, avec amour, avec dévotion, avec une telle concentration, une telle implication qu'il fait de l'ostentation pour son Seigneur. Il accomplit l'action de la façon la plus parfaite pour montrer à Allah sa dévotion et son envie de lui plaire. C'est comme ça que je dois faire mon shuruq, c'est comme ça que je dois lire mon Coran, je dois faire chaque bonne action. Le faire avec cette prise de conscience qu'Allah va le voir dans un instant, ce soir, dans quelques temps. Et de même, maintenant concernant les péchés, tu restes éloigné, tu t'éloignes des péchés parce que tu sais pertinemment que cette désobéissance sera présentée à Allah. Et je ne peux pas me permettre qu'un péché monte aux cieux et qu'Allah voit que je l'ai délibérément désobéi. Et donc, quand je suis dans une situation de péché, qu'est-ce qui me permettra entre autres de me freiner, de ne pas obéir à mon nafs, c'est de me rappeler qu'Allah va bientôt voir ce péché et je ne peux pas. J'ai trop honte qu'Allah voit mon péché et donc je m'en abstiens. Et si par inadvertance j'ai commis quelque chose de mal, je demande abondamment istighfar parce que je sais que lorsque le croyant accomplit un péché, Allah demande aux anges, ce qui prouve bien, Allah n'a pas besoin d'attendre que l'action lui soit présentée. Allah en est conscient et la directive qui est donnée aux anges, c'est que lorsque le péché est accompli, de ne pas l'écrire maintenant et d'attendre. Peut-être que le serviteur finira par demander pardon. Et pendant plusieurs, ça c'est un terme moderne, plusieurs heures, l'ange n'écrit pas. Pendant un laps de temps, l'ange n'écrit pas le péché avec espoir que le moumine demande pardon pour ce péché. Et si le pardon a été demandé, le péché n'est pas écrit de le livrer de compte, autrement le péché est inscrit. Donc, quand je suis, et on va terminer avec ça, dans une situation où je suis exposé à un péché, ne pas le faire parce que je sais qu'Allah va le voir. Et si par inadvertance je l'ai accompli, demander immédiatement pardon, intensément tauba avec sincérité et dévotion, avec remords et l'intention ferme de ne plus recommencer afin que le péché ne soit pas présenté à Allah Azza wa Jal et ne soit pas inscrit dans mon livret de compte. Toutes ces explications, ça découle de la ta'khudhu sinatun wa la nawm, le fait qu'Allah soit omniscient de tout ce qui se passe sur terre parce que c'est lui qui organise la création, mais également il est conscient et il connaît les actions que tu accomplis et il voit tes bonnes œuvres et il voit tes péchés. Et cela depuis la création, depuis le début de la création jusqu'au Qiyam, des générations, des centaines, des milliers, des centaines de milliers de générations qui se sont succédées, Allah les a tous observés naître, vivre et mourir. On va s'arrêter là pour ce soir, Inch'Allah. Et du coup, l'ayatul kursi va nous prendre, je pense, 3 ou 4 jours. C'est pas grave. Le but n'est pas de cumuler les versets, mais de les comprendre. Et que peut-être que cette compréhension nous permettra d'avoir un lien plus fort avec ce verset. Et si nous avons compris l'ayatul kursi, c'est majestueux. Tout comme le croyant qui a compris la sourate al-Fatiha avec ses 7 versets, c'est quelque chose d'énorme parce qu'il va le lire régulièrement, de même Ayatul Kursi, et demain on verra Inch'Allah, lahuma fis samawati wa ma fil ard, et ce sont des versets qui nous rappellent la puissance d'Allah. Là nous voyons, nous avons un aperçu sur le fait qu'Allah n'ignore rien. Et là on va voir que tout est dans les mains d'Allah et que rien ne peut se produire sans l'ordre d'Allah et tout est sous la protection d'Allah. C'est toute la puissance de l'Ayatul Kursi, qu'Allah nous permette de comprendre ces quelques paroles et que sa réalité pénètre notre iman et que notre notre pensée à propos d'Allah s'améliore et que nous arrivions à intégrer que Allah est Al-Azim, le plus grand, le plus puissant, et que du coup nous nous soumettons à celui qui est Al-Ali, Al-Azim, wa ma tawfiqi illa billah, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala al-mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin, jazakumullah khairan.